Vous êtes bien sûr Radio Orient avec vous, François-Xavier de Calonne, l'invité de Pluriel et candidat à la présidence de la République dans moins d'un an maintenant. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour monsieur.
Vous êtes le maire de Hyères dans l'Essonne, vous êtes le président de Debout la France, ancien membre aussi de l'UMP. Vous venez de publier 2027 La liberté ou la mort, édité par Fayard. Alors tout d'abord l'actualité internationale, comment vous accueillez ce protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis? Les négociations débuteront dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif, mais c'est un accord qui reste flou, notamment sur le plan économique.
D'abord, juste une petite précision. J'ai quitté l'UMP il y a près de 15 ans, plus de 15 ans, après le viol du référendum. Donc, ça fait longtemps.
Je relatais votre parcours.
Tout à fait. Écoutez, d'abord, c'est un espoir de paix. Et cet accord permet, j'espère, de clore cette tragédie. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'en fait, cette guerre aurait pu être évitée. Puisque les Américains cèdent à l'Iran une position plus favorable qu'au début de la guerre.
On revient au point de départ, c'est aussi ce que vous nous dites, hein, cette rouverture du détroit d'Ormuz.
C'est-à-dire, on revient au point de départ et Donald Trump habille son échec par des cris de victoire. La victoire de la paix alors que c'est lui qui a déclaré la guerre. C'est quand même fou quand vous y réfléchissez. C'est terrible quand on sait le nombre de morts qu'il y a eu, quand on sait le désastre que ça a été humanitaire et quand on sait les conséquences aussi économiques pour le monde entier. Bon, bref, maintenant, on en est là. Donc, la seule chose qu'on peut espérer, c'est de concrétiser cet accord sur les différents volets. La liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz pour faire retomber la tension sur les prix du pétrole, des engrais, du gaz. Et bien évidemment, un règlement durable de l'affaire de l'uranium détenu par l'Iran pour que l'Iran respecte le traité de non-prolifération. Et puis, sans doute le plus dur à obtenir, le départ d'Israël du Liban pour que le Liban retrouve sa souveraineté.
Ça, c'est l'appel que vous lancez aujourd'hui, c'est un élément important.
Moi, vous savez, je suis un gaulliste. J'ai toujours dit la même chose à toutes les parties, si je puis dire. C'est-à-dire que Israël a le droit de vivre en sécurité dans ses frontières initiales. Mais les autres pays ont aussi le droit de vivre en paix.
Quand le président français, Emmanuel Macron, dit souhaiter la tenue d'une conférence internationale pour aider l'armée libanaise, alors la difficulté, c'est bien entendu d'éviter une confrontation intérieure au Liban entre le Hezbollah et les forces armées. Cette conférence pour aider l'armée, elle est importante.
Elle est vitale. Simplement, l'Israël ne veut pas parler à la France. Furieux. Parce que Emmanuel Macron ait reconnu l'État palestinien. Et le Liban, en fait, a deux autorités. Le gouvernement légal et légitime est le président, mais aussi le Hezbollah qui a sa véritable armée. Et donc, le chemin est extrêmement étroit, périlleux, difficile, escarpé. Parce qu'il faut d'un côté que le Hezbollah respecte Israël, et de l'autre, qu'Israël se retire du Liban. Israël ne veut se retirer du Liban que quand il estimera avoir désarmé le Hezbollah, et le Hezbollah trouve prétexte à l'occupation par Israël du sud Liban pour se réarmer, estimant que l'État libanais ne fait pas le travail. Donc on est dans un système absolument périlleux. Et celui qui aurait la solution pour réconcilier le Hezbollah et Israël, ben, il n'est pas né. Bien sûr qu'il y a un chemin. Alors, toutes les conférences, tous les dialogues, toute la diplomatie sera nécessaire.
Est-ce qu'il y a un chemin pour la population iranienne? La population iranienne n'est-elle pas la grande perdante de cette guerre? Elle voit aujourd'hui un régime renforcé.
Ben, c'est ce que j'avais dit, et on m'a traité de tous les noms quand je l'ai dit. Quand il y a eu le déclenchement de la guerre, moi j'ai dit à l'époque, souvenez-vous, toute la classe politique applaudissait, hein. On n'était pas nombreux à dire non, hein. Et j'étais un des rares à dire, casse-cou, Donald Trump va renforcer le régime iranien au détriment de la population. Parce que quand vous bombardez un pays, vous n'empêcherez jamais, vous favoriserez un réflexe patriotique autour des dirigeants, quels qu'ils soient. Donc c'est une erreur tragique, mais écoutez, moi je me souviens quand ça a commencé, qu'est-ce que j'étais minoritaire? Personne, c'est tout juste si on avait le droit de parler. Voilà, il fallait bombarder toute la population iranienne pour que le régime tombe. Bah, ils ont tué tous les dirigeants iraniens, le régime n'est pas tombé. Ils ont bombardé, il y a eu des centaines de morts abominables pour rien. C'est ça qui est tragique. Et la France n'a pas été brillante dans cette affaire. Hein? Parce qu'à l'époque, elle n'a rien dit. Elle n'a pas condamné.
La France a condamné hein,
non,
la répression des manifestations
non,
en
non,
Iran,
non.
Plus de 20 000 morts.
Non,
oui,
non.
Oui.
Non, la France a condamné la répression des manifestations. Mais la France n'a pas condamné Donald Trump et Israël quand ils ont bombardé au début.
Et la France n'a pas été prévenue. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'avait pas été prévenu au début des frappes.
Mais la France a été très timorée parce qu'en fait, au fond d'eux-mêmes, beaucoup des dirigeants français politiques et gouvernementaux estimaient que ça allait faire tomber le régime. Et donc, ils ne voulaient pas trop s'avancer. C'est-à-dire que moi, je considère que la France aurait dû avoir une voix forte et dire « c'est une folie ce que vous faites ».
Paris, hein, qui a toujours prôné la voie de la diplomatie. Et l'on voit que cela se règle aujourd'hui via la diplomatie.
Alors oui et non. Paris a prôné la voie de la diplomatie quand Paris a senti le vent tourner et a vu que l'opération militaire américaine échouait. Et si vous voulez, si on prend un peu de recul sur les choses, le vrai problème, c'est que la France n'a plus une voie indépendante. La France est prisonnière de l'Union européenne sur le plan de la défense, sur le plan de la diplomatie. La France est très timorée quand Israël dépasse les bornes. La France est soumise au pouvoir américain. Donc moi, je souhaite qu'on retrouve une voie forte, indépendante. Et c'est pourquoi je veux qu'on sorte du commandement militaire intégré de l'OTAN. Je veux qu'on compte sur nos propres forces militaires pour nous défendre. Et je souhaite que la France retrouve son prestige d'un pays libre qui parlait au monde entier.
C'est pourquoi vous vous présentez à cette présidentielle. Nous sommes ici dans votre bureau au siège du parti Debout la France. Dans votre bureau où se trouvent différentes photos, celle du général de Gaulle aussi, celle de Philippe Séguin, gaulliste, ancien président notamment de l'Assemblée nationale. On s'en souvient, en 2017, hein, vous aviez fait alliance avec Marine Le Pen. Depuis, les relations se sont distendues. Où en êtes-vous aujourd'hui?
Ben, écoutez, j'avais fait alliance pour barrer la route à Emmanuel Macron. À l'époque, tout le monde m'a critiqué. Et on a vu le bilan de 10 ans de macroniste. Le pillage du pays, la destruction du pays. Je me représente parce que je pense que les choses ont changé. Et surtout si c'est Jordan Bardella, je pense qu'il y a besoin d'une voix gaulliste pour l'indépendance de la France. Et puis je vois aussi le Rassemblement national devenir de plus en plus obéissant à l'OTAN, à l'Union européenne et ne plus vouloir en sortir.
Vous dites surtout si c'est Jordan Bardella, il est moins gaulliste que Marine Le Pen pour vous?
Ah, il a une vision beaucoup plus atlantiste, beaucoup plus libérale, beaucoup plus dans le système. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un grand malaise de nombreux patriotes, de gauche comme de droite, parce que je pense qu'il y a besoin d'une candidature gaulliste pour l'indépendance de la France, pour la coopération entre les peuples, pour la paix dans le monde, notamment en Ukraine, pour que l'argent des Français reste aux Français. Emmanuel Macron, il a gaspillé tout l'argent des Français dans le monde entier, dans la guerre en Ukraine, pour Zelensky, etc. Et puis, nos concitoyens, ils crèvent. Donc, je pense qu'il faut revoir les priorités. C'est pourquoi j'ai écrit un livre, 2027, La liberté ou la mort, où je présente à la fois mes grandes propositions. Une vraie démocratie avec le RIC, référendum d'initiative citoyenne qu'avaient demandé les Gilets jaunes, l'indépendance nationale, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne et la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, et puis ensuite une politique d'ordre juste. L'ordre, parce qu'il faut rétablir l'ordre en France, on a vu avec la triste, abominable affaire Liana, et puis aussi la justice par la production en France, la relocalisation de nos entreprises, et par des vraies réformes sociales.
Vous évoquez hein, cette affaire Liana qui provoque à la fois stupeur et colère en France. Il y a des manifestations désormais chaque lundi, place Vendôme. Le suspect avait fait l'objet hein, de signalements et de plaintes avant ce meurtre. Comment mieux protéger les enfants aujourd'hui, sachant que la très grande majorité des plaintes n'aboutissent pas?
Alors, il y a tout un volet. Si vous allez sur le site de Debout la France, vous verrez 18 propositions très concrètes pour rendre à nouveau la justice au nom du peuple. c'est-à-dire la rendre efficace, notamment la question des moyens. Mais la question des moyens, on pourrait le faire demain matin, il manque 7 milliards pour la justice. Emmanuel Macron a engagé la France pour 40 milliards en Ukraine. On donne chaque année à l'Union européenne net 15 milliards. C'est-à-dire on donne 15 milliards de plus qu'on reçoit.
Et sur cette question, sur l'affaire Liana, ça veut dire que... Parce que c'est la parole des enfants qui est importante et qui n'est pas écoutée. Oui, mais c'est un sujet précis et important.
Vous avez raison, mais si les magistrats n'arrivent pas à traiter les affaires qui tombent, les plaintes des enfants notamment, c'est parce qu'aussi, ils sont débordés d'affaires. Donc il y a un problème de moyens. Et ce n'est pas une somme si importante quand on gaspille tant d'argent ailleurs. Deuxièmement, et vous avez raison, l'enfance dans notre société n'est pas protégée. C'est abominable.
Les 70 000 dossiers qui restent en attente aujourd'hui. Vous, Nicolas Dupont-Aignan, vous faites de la politique. Vous avez été député de l'Essonne de 1997 à 2024. Tout simplement, au cours de ces 27 ans, est-ce que vous avez déposé une proposition de loi sur ce sujet ?
Alors oui. Et dès 2012, il y avait la réunion de l'Institut de la Justice pour la justice. J'étais le seul à proposer 40 000 places de prison. J'étais le seul à dire qu'il fallait informatiser les tribunaux, qu'il fallait une vraie justice. Donc, ce n'est pas faute de l'avoir dit. Mais il y a autre chose. L'affaire Epstein. Pourquoi il n'y a pas de commission d'enquête en France ? Est-ce qu'au sommet, quand je dis au sommet, ce n'est pas l'Élysée, hein, c'est au sommet de la société. Est-ce qu'il y a une vraie lutte contre la pédocriminalité ? Moi, je vous pose la question.
Vous posez la question, mais quand vous posez cette question, vous faites une forme d'insinuation. C'est que Epstein était le propriétaire d'un grand appartement à Paris, avenue Foch, dans lequel il se rendait régulièrement. La justice fait son travail aujourd'hui.
Non, la justice n'a pas fait son travail. Et ce que je veux dire, c'est que quand au sommet, le poisson est pourri par la tête... Faut pas s'étonner qu'après, toute la société est une tolérance.
Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites au sommet, le poisson est pourri par la tête ?
Ben, je dis que la pédocriminalité, comme le dit d'ailleurs Carl Zero depuis des années, et personne ne le croyait, il n'y a pas de vraie lutte contre la pédocriminalité dans notre pays.
Mais pourquoi au sommet ?
Ben, parce que si au sommet, vous protégez des gens...
Qui protège ?
Eh ben, j'aimerais savoir.
Vous ne savez pas.
Pourquoi la commission d'enquête sur l'affaire Epstein a été refusée ? C'est pas possible qu'on en soit là. Donc, il faut un grand coup de balai partout. Et c'est pourquoi j'ai proposé, symboliquement, je le sais, qu'il y ait un référendum sur la peine de mort. Parce que moi, j'estime qu'une société qui laisse tuer, violer ses enfants est une société qui est indigne.
Vous comprenez que cela puisse heurter fortement les Français. Et il est important également de souligner que la peine de mort, abolie lors du premier mandat de François Mitterrand par le ministre de la Justice Robert Badinter, eh bien, cette abolition, à l'époque, était peu populaire. Parfois, l'État ne doit pas aller forcément dans la position des citoyens. C'est aussi important. Et c'est ce qui peut différencier d'ailleurs le populisme de l'action républicaine.
La justice, elle est rendue au nom du peuple français. L'abolition de la peine de mort correspondait à une époque. Quand on voit ce qui est arrivé avec le terrorisme, ce qui arrive avec la pédocriminalité, ce qui est abominable, c'est que des enfants disparaissent. Ce qui est abominable, c'est que des enfants soient tués. Ce qui est abominable, c'est que les tueurs soient en liberté ou qu'ils aient des peines dérisoires. Donc maintenant, ça suffit. Moi, je dis, d'ailleurs, 68% des Français me rejoignent, je dis qu'à un moment, c'est pas du populisme, c'est de la démocratie. Et j'en ai assez.
Parce que la majorité a toujours raison.
Mais la majorité en démocratie a raison. Mais c'est la démocratie. Et il y a un moment, ça ne doit pas être sous le coup de l'émotion, ça ne doit pas être n'importe comment. Mais qu'on ait un débat en France sur le fonctionnement de la justice, les moyens qu'on lui donne, l'échelle des peines, et qu'à un moment les Français décident, comme moi je le propose, qu'on affiche clairement que pour les crimes d'enfants et le terrorisme, eh bien la peine de mort est possible. Ça existe aux États-Unis, ça existe au Japon, ça existe dans tous les pays du monde. Je ne vois pas pourquoi ça serait un interdit. Ça ne veut pas dire, soyons précis, que c'est la seule réponse, parce que ce serait illusoire.
On serait d'ailleurs le seul pays européen à rétablir cela. La peine de mort, c'est aussi une conception de la justice. La justice qui ne doit pas donner la mort, qui ne doit pas se mettre au même niveau que les meurtriers.
Et bien, en attendant, les meurtriers d'enfants ne méritent que la mort.
Une dernière question, Nicolas Dupont-Aignan. Le pacte, c'est votre point de vue. Le pacte asile et immigration entre en vigueur vendredi, 2 ans après avoir été adopté. Il modifiera en profondeur la gestion des demandes d'asile dans l'Union européenne. Les députés européens se sont prononcés pour les hubs de retour. En clair, hein, il s'agit d'envoyer les personnes déboutées du droit d'asile dans des pays qui les accepteraient, mais qui ne seraient pas leur pays d'origine, des centres en dehors de l'Union européenne. Des ONG s'inquiètent de possibles violations des droits humains. Est-ce aussi votre crainte aujourd'hui? Et je vous poserai une deuxième question. L'immigration légale peut-elle être une chance pour la France? Ce sont deux questions différentes auxquelles je vous propose de répondre.
Premier point, ce pacte immigration-asile, c'est une usine à gaz, trop compliquée et qui transfère de fait encore plus la politique migratoire et d'asile à une organisation non élue qu'est la Commission de Bruxelles. J'estime que c'est aux frontières françaises, sous les lois de la République, que ça doit se faire. Premier point. Deuxième point, sur l'immigration. L'immigration a pu être une chance à certains moments quand elle était voulue des deux côtés, par celui qui arrive et celui qui accueille, quand elle était mesurée, digérée et qu'elle aboutissait à l'assimilation républicaine, c'est-à-dire on ne perd pas son identité d'origine, mais on est heureux d'être français. À partir du moment où on a dépassé un nombre, à partir du moment où la société française n'a ni l'économie, ni l'argent, ni l'école, ni l'hôpital pour bien fonctionner, avec un afflux considérable de population, plus de 500 000 par an, un record, c'est explosif.
Donc votre réponse est non quand je vous pose la question, l'immigration légale est-elle une chance pour la France? Je précise légale.
Certains, bien évidemment. Moi, j'ai toujours dit que c'était stupide l'immigration zéro. Mais une immigration, pour qu'elle soit utile à celui qui arrive, comme au pays qui l'accueille, doit être digérée, organisée et pas subie des deux côtés.
Et ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes candidat à la présidence de la République, maire de Hyères. Vous présidez le mouvement Debout la France et vous venez de publier 2027, La liberté ou la mort aux éditions Fayard. Merci Nicolas Dupont-Aignan, merci à vous chers auditeurs et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
Merci à vous tous.